Fréquence Terre, la radio nature.
Fréquence Terre, la radio nature en direct du salon Planète Durable à Paris, toute la journée jusqu'à 19h et jusqu'à demain dimanche, toute la durée de ce salon sur le stand féminin-bio.com. En partenariat avec cedurable.info et Marcel Green. Marcel Green, aujourd'hui représenté par Mathieu Jubré. Bonjour.
Bonjour.
Et avec vous, nous allons parler d'art et de développement. Autour de cette table, également Laurane Germont. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de la Coalition pour l'art et le développement durable. C'est ce dont nous allons parler jusqu'à 11h. Mathieu Jubré.
Bonjour Laurane.
Bonjour.
Première question toute simple, pourquoi est-ce que l'art devrait-il se préoccuper de développement durable ?
Bah, en fait, on est parti de l'idée tout simplement que le développement durable, c'est d'abord un grand changement de société et donc un changement culturel, et qu'on ne peut pas faire ce changement de société sans impliquer en fait les créateurs, les visionnaires, les personnes qui vont pouvoir penser différemment nos modes de vie demain. Et voilà. Et donc, c'est vrai que cette histoire, ça a commencé un petit peu en 2004. En fait, on a monté un colloque qui s'appelait l'artiste comme partie prenante dans le développement durable. En fait, c'était une initiative d'Alice Audouin, donc, qui est professionnelle du développement durable. À l'époque, moi, j'étais du milieu de l'art. Je n'avais pas encore eu accès à ces réflexions. Et en fait, on s'est rendu compte que dans les parties prenantes, dans les organisations des Grenelles, etc., il y avait plein de représentants de la société civile, mais il n'y avait aucune place qui était faite à la culture et à l'art, ce qui est encore le cas d'ailleurs aujourd'hui. On regardait ensemble, on était tous des professionnels de l'art et du développement durable cette semaine, et on regardait le programme il y a un grand séminaire là en ce moment, je ne sais plus.
L'Université de la Terre.
Voilà, c'est ça, et il y a la liste des parties prenantes et pas une chose pour la culture. Or, en fait, on se dit que il y a l'artiste en particulier, mais d'une manière générale, toute la classe créative, en fait, donc ça va de la communication en passant par le cinéma, la littérature, etc., ça représente aujourd'hui quand même beaucoup de gens qui imaginent en fait et qui véhiculent les représentations de nos sociétés, et qu'en fait on leur donne pas du tout de place alors qu'ils ont quand même un fort pouvoir d'impact sociétal.
D'accord. Et vous donnez une utilité à l'art, quoi.
Voilà, une utilité non, mais par contre partir du principe en fait que une utilité oui si on veut, enfin en tout cas un rôle, hein, c'est un rôle à jouer dans la société indéniablement. Et en fait effectivement l'artiste d'autant plus a un rôle très intéressant sur ces sujets parce qu'en fait il est totalement désintéressé, il ne travaille que pour lui-même finalement et il ne véhicule aucune idéologie autre que sa propre idéologie. Donc en ça il est capable, surtout aujourd'hui il y a des pratiques artistiques qui sont assez éloignées peut-être de celles qu'on imagine habituellement, c'est pas de la peinture, c'est pas de la sculpture, etc. C'est des processus qui sont parfois, il y a des formes très variées hein, évidemment, mais notamment tous les processus participatifs, le travail avec les communautés, souvent des réflexions qui touchent à l'agriculture, au paysage, à la résilience sur des lieux qui ont été touchés par des pollutions, etc. Et en fait, l'artiste du coup peut arriver comme ça dans des lieux et dans des situations aussi, dans des conjonctures complexes, et de sa position donc d'artiste autonome lui permet aussi d'acquérir la confiance en fait des uns et des autres et de pouvoir véhiculer des messages, etc., à travers ça.
Alors justement, matériellement, ça se présente sous quelle forme ? Comment l'art peut représenter le développement durable ou parler de développement durable ?
Alors, c'est très différent. Déjà, moi, c'est vrai que notre action, pour des raisons historique, quoi, et plutôt axé sur les arts visuels. Mais c'est vrai qu'après, on peut parler de tous les secteurs. Notamment, par exemple, le cinéma. Récemment, il y a eu un grand message envoyé donc, aux États-Unis à Hollywood pour dire que maintenant, il faut qu'Hollywood s'implique, il faut qu'Hollywood, comme on l'a fait pour la cigarette, quoi, véhicule en bruit de fond certains messages liés au comportement écologique. Dans la littérature aussi, ça se retrouve beaucoup. Bon, dans la science-fiction, aujourd'hui, il n'y a pas de science-fiction qui ne réfléchit pas également à la catastrophe écologique, etc. Et dans le théâtre, dans le spectacle vivant, beaucoup aussi. Donc il y a des artistes qui s'impliquent. Alors, ce qu'il y a toujours deux manières de s'impliquer, hein, comme partout dans la culture, c'est la question des process, donc l'industrie créative qui elle-même peut remettre en question son propre impact carbone. Donc c'est forcément important dans le cinéma, par exemple, ou même dans la production musicale, la production de théâtre, etc. Donc là-dessus, il y a plein d'organisations qui réfléchissent à améliorer les processus de l'industrie, donc améliorer les tournées, etc. Et puis ensuite, il y a le message sociétal. Donc, par exemple, dans la musique, dans les très connus, il y a Radiohead, par exemple, qui a refusé dorénavant d'aller à des festivals qui n'avaient pas réfléchi sur leur fonctionnement, etc. Et après, dans le domaine des arts plastiques, évidemment, on va dire que l'impact en pollution, etc., est plus faible, puisque c'est quand même généralement des plus petites productions. Mais en revanche, il y a un message sociétal qui est important. Et c'est vrai que dans les arts plastiques, ça prend des formes, alors, voilà, comme je disais, donc très, très diverses. Alors, il y a des représentations qui vont être beaucoup plus symboliques. On va représenter autrement notre rapport à la nature. Alors, là, par exemple, typiquement, là, je ne peux pas vous dire à quoi ça va ressembler, mais c'est assez intéressant comme phénomène parce que cette année, à la Biennale de Venise, les artistes qui représentent l'Amérique, au pavillon américain, c'est Alora et Casadilla, donc c'est un duo d'artistes très impliqués sur les questions écologiques, qui a beaucoup travaillé sur la catastrophe de la Nouvelle-Orléans, etc. Donc c'est des artistes américano-cubains, donc c'est assez intéressant aussi. Et c'est eux qui représentent l'Amérique à cette année. Donc ça peut peut-être aussi véhiculer des choses.
Vous parlez d'art plastique. Est-ce que dans l'utilisation des matériaux aussi, il y a une implication durable? Parce que je pense par exemple aux peintures, il y a beaucoup de composés chimiques qui peuvent être aussi assez nocifs. Est-ce que c'est pris en compte par les artistes dans leur réalisation?
Alors concrètement, aujourd'hui, très peu. Donc c'est vrai que les artistes qui maintenant travaillent sur les projets écologiques, bon, ceux en tout cas qui m'intéressent, les démarches les plus intéressantes, ne sont pas nécessairement des artistes qui produisent des objets. Donc évidemment, il va y avoir éventuellement c'est plutôt des processus, comme je disais, par exemple dans investir une zone rurale, créer plutôt sur le principe des plus activistes, des jardins partagés, des choses comme ça, etc., mais avec une dimension esthétique, avec une approche différente. Et ensuite, et par contre, c'est vrai que sur les processus, on peut pas dire que ce soit vraiment très intégré, ou du moins, c'est pas forcément les pratiques qui sont les plus intéressantes aujourd'hui. Et en plus, il y a un manque de produits. En fait, d'ailleurs, on a travaillé là-dessus aussi. Il y a une personne qui est très impliquée sur ces sujets, qui est en train d'essayer de développer des biomatériaux, des résines, des peintures, etc. Parce qu'il y a en plus un problème de santé aussi, de santé publique pour les artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes, notamment qui travaillent la résine, qui ont eu des gros problèmes de santé. Nikit Sinfal est morte de son travail sur la résine. Voilà.
Alors justement, comment est-ce que le monde artistique perçoit cette contrainte qu'est le développement durable? Est-ce que justement c'est une contrainte? Est-ce qu'au contraire c'est une opportunité? Est-ce que c'est un sujet dont il s'empare volontiers? Comment c'est perçu par les
Alors objectivement, non, c'est pas très bien perçu, et alors encore moins en France qu'ailleurs. Donc c'est vrai qu'en France on a une scène très peu développée, on a peu d'artistes impliqués. Enfin, il y a beaucoup de petites initiatives éparses et locales, mais qui ne sont pas aujourd'hui réunies, qui ne dialoguent pas, etc., et qui ont très peu de visibilité. Globalement, ça tend à changer. Justement, là, en fait, cette semaine, on a organisé, à la demande du ministère de l'Écologie, un gros workshop. On a réuni tous les professionnels européens les plus engagés, avec les initiatives les plus intéressantes. Donc, il y a des très gros progrès qui se font. En Allemagne, par exemple, en ce moment, il y a un énorme projet sur 3 ans, financé par l'équivalent du ministère de la Culture locale sur la ville de Berlin pour réfléchir à des modes de vie durables. Tout ça lié à la culture, évidemment. Il y a une organisation qui s'appelle Imagine 2020 qui réunit 11 structures européennes aussi aujourd'hui, dont 2 en France, pour essayer à la fois surtout pour soutenir la création dans ce sens. Mais on ne peut pas dire pour l'instant que ça soit la tendance générale. Ça reste plutôt minoritaire, mais on remarque vraiment une accélération depuis 2005. En revanche, auparavant, c'est vrai que les artistes ou les professionnels qui étaient impliqués dans ces sujets ont pas mal souffert d'isolement et aussi d'une critique qui était aussi parfois légitime, c'est-à-dire que juste pendant longtemps, les artistes et l'esthétique qui entourait en fait les thématiques écologiques étaient objectivement de mauvaise qualité. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des artistes qui soient vraiment... Et il y a en plus une superficialité aussi des sujets. Souvent, les artistes aujourd'hui qui ont les projets les plus intéressants, ils sont soit véritablement très très investis ou en collaboration avec des scientifiques, mais parce qu'il y a aussi des artistes qui se revendiquent d'un travail sur l'écologie, alors qu'en réalité ils se contentent soit de bidouiller du recyclage machin, soit de s'intéresser à la nature, mais pas nécessairement de répondre à les enjeux contemporains.
Et alors dans l'histoire de l'art, est-ce que c'est quelque chose de très récent, ou est-ce que quand on remonte un petit peu l'histoire de l'art, on retrouve des gens qui se sont intéressés très tôt à la problématique de la nature, de l'environnement, de sa protection éventuellement?
Alors oui, ça, on ne va pas revenir loin dans l'histoire, mais en tout cas depuis les années 60 et en même temps que la naissance de la pensée écologique, il y a tout de suite eu des artistes très très impliqués, plutôt en Amérique et en Allemagne qu'en France, une fois de plus. Mais dans les grands précurseurs, il y a Joseph Beuys, qui est un artiste international plus connu du XXe siècle, et qui est en fait un artiste qui était extrêmement engagé sur les questions écologiques, qui a d'ailleurs quasiment arrêté sa pratique artistique pour participer à la fondation du Parti Vert en Allemagne. Voilà, et il y a une de ses célèbres pièces, donc là c'était en 82, mais il avait commencé auparavant, c'est l'opération des 7000 arbres, la documentaire de Kassel. Donc en fait c'était et un programme qui continue, enfin en tout cas qui a continué longtemps après sa mort, où en fait les visiteurs étaient invités à acheter en fait un arbre à planter. Donc c'était un peu le début de ce genre de démarche.
Est-ce qu'on peut considérer les paysagistes, par exemple, dans les siècles précédents, comme des précurseurs de cet art? Ils représentaient la nature, ils donnaient une image de la nature. Est-ce qu'ils peuvent s'inscrire dans ce mouvement
Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas... Alors, et l'autre chose aussi, c'est qu'il y a beaucoup, par exemple, des domaines naturels, par exemple, qui ont été classés aux États-Unis, les premiers parcs naturels américains, ont souvent été le fait de demandes menées par des artistes. Et en France aussi, alors j'ai oublié le nom, mais dans la région de Barbizon, etc., il y a des premières forêts qui ont été classées parce que c'est des artistes qui disaient c'est une réserve naturelle, de paysage, etc., et il faut la classer. À l'époque, il n'y avait pas les mêmes consciences d'enjeux, mais en tout cas, toute notre représentation de la nature, elle a été en partie formée et représentée en fait, par les artistes. Et donc, c'est souvent à partir des représentations d'artistes qu'on crée notre propre vision de la nature.
Alors, si on revient un petit peu plus concrètement sur l'action de Koal, en quoi consiste votre travail au jour le jour, vous, pour encourager cette forme d'art-là?
Alors, nous, en fait, on a effectivement créé cette association. On est six personnes à l'origine de cette association, issues du milieu du développement durable ou de l'art et de la recherche et du paysage, d'ailleurs. Et on avait tous envie, justement, de créer plus de transversalité et de contact entre ces univers. Et donc, on s'est constitué un petit peu à la fois en groupe de réflexion. Donc, c'est vrai qu'on intervient... On organise, alors là, comme je disais, effectivement, là, maintenant, on fait des missions pour le ministère de l'écologie, et notamment là, des missions de mise en relation des acteurs, etc., essayer de rassembler un petit peu les forces un peu sur le territoire pour monter une action plus ambitieuse dans les années qui viennent. Et par ailleurs, on a créé, c'est un petit peu notre action majeure, qui est la création du prix Koal. On est parti aussi du principe qu'effectivement, comme il y avait peu d'artistes en France et peu de choses à promouvoir, on a décidé de lancer ce cycle d'appel à projets pour justement identifier des artistes engagés peut-être, ou susciter des vocations, et à travers cet appel à projets créer un petit peu un vivier d'idées, créer un réseau aussi progressivement.
Ce prix existe?
Alors c'est la deuxième édition en 2011, donc la première édition était l'année dernière. Donc là c'est un prix de 10 000 euros en fait qu'on remet chaque année à artiste pour l'encourager sa démarche.
Et alors l'an dernier par exemple, qui a été primé, pour quel projet?
Alors c'était Thierry Boutonnier, donc c'est un artiste lyonnais, et c'est pour un projet en fait donc, qui commence à voir le jour, et on est content parce que le prix effectivement l'a aidé dans ses démarches et dans sa recherche de légitimité. C'est un projet dans un quartier en réhabilitation en fait de la quartier Mermoz de Lyon, et c'est tout un projet d'agriculture urbaine dans cet espace en travaux, avec installation d'un pigeonnier, de ruches, d'une pépinière d'arbres mis en œuvre et géré par les habitants, etc. Donc c'est vraiment un comment aussi se réapproprier les espaces publics. Et lui, il développe une idée qui est entre la maîtrise d'ouvrage, etc., est-ce qu'on ne devrait pas inventer une maîtrise d'usage et le droit des habitants à disposer de leur espace, et ce qui paraît assez simple, mais pourtant qui est d'une complexité absolue, puisqu'on ne peut pas planter un arbre en bas de chez soi quand on habite dans un H&M.
Ce type de prix, c'est quelque chose qui vous êtes un petit peu inspiré de ce qui se passait à l'étranger. Vous parliez des artistes américains ou allemands. C'est quelque chose qui existe ailleurs, ou c'est une première ce que vous faites?
Alors en fait, non, il y a des choses un peu partout dans le monde. C'est vrai qu'on ne s'est pas inspiré précisément dans le sens où il y a des prix. Je ne sais pas s'il y en a tant que ça. C'est vrai que nous, ça correspondait à un format, au format dont on avait besoin, comme j'expliquais, parce qu'il fallait créer des appels à projets, etc. Et c'était un format qui était aussi gérable pour une petite association qui commençait. Et c'était aussi les moyens, j'ai oublié ça, via le prix et le jury, en fait, on pouvait impliquer des personnalités de l'art contemporain, etc. Comme en France, on a aussi une scène qui a besoin de crédibilité, qui a besoin de s'associer des personnalités pour y croire. Donc grâce au jury qu'on a pu impliquer sur le sujet, on essaye comme ça de gagner une légitimité en France. Mais sinon, c'est vrai que, comme je disais, en Angleterre, l'Angleterre, c'est vraiment le pays qui est le plus impliqué. D'ailleurs, le British Council a décidé de nous soutenir parce que justement, ils ont une grande politique en Angleterre sur ces sujets. Il y a beaucoup d'organisations. On a justement fait ce travail de cartographie pour le ministère de l'écologie, savoir où est-ce qu'il y avait le plus d'initiatives, etc. Alors en Angleterre, c'est vrai que c'est vraiment, ils sont très en avance. Ils ont notamment pendant 5 ans un programme de la Royal Academy qui s'appelait RSA Art Ecology, en fait, qui a mené des expositions, des résidences, des publications. Il y a Art Catalyst qui a un très gros programme Art Science, en fait, donc qui montre des collaborations entre artistes et scientifiques, ce qui est vraiment très, très important aussi, qui ont des masters à l'université, etc. Et aux États-Unis aussi, il y a évidemment beaucoup d'initiatives. Mais c'est vrai que par contre, bon, là, on rentre quand même dans une nouvelle vague, une nouvelle dimension qui est très très nette. En l'espace de 3-4 ans, on voit émerger des projets un peu similaires à Coal partout en Europe.
En Europe et dans le monde aussi ? Ailleurs dans le monde ?
Alors, ailleurs dans le monde, dans les pays en Occident, on va dire, quand même beaucoup moins dans les pays du Sud, même s'il y a eu des... Enfin, non, quasiment pas, en fait. C'est vrai que dans les initiatives sont remontées, alors ça va être Amérique du Sud, Mexique, un peu plus en Amérique latine, parce qu'en plus, là, y a une... historiquement, il y a un peu une... les artistes en fait en Amérique latine sont très engagés, donc c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve plus fortement. Et en Asie un petit peu, il y a des initiatives en Inde très intéressantes. Ils ont monté d'ailleurs à Delhi un festival qui s'appelait 48 degrés, qui est coproduit avec l'Angleterre en l'occurrence, et le Goethe Institute qui est très impliqué aussi. C'était tout un projet de résidence et d'intervention dans l'espace public autour des problématiques de réchauffement climatique.
Et alors, où en est l'appel à projet 2011 ?
L'appel à projet 2011 est en cours jusqu'au 30 avril et le prix COAL sera remis le 24 mai au laboratoire.
D'accord. Donc vous commencez à recevoir des projets là ?
Oui, on reçoit des projets de plus en plus, beaucoup plus internationaux que l'année dernière, pour des raisons aussi parce qu'on a davantage noué de liens avec des structures internationales justement. Et donc là, ça suit son cours et on reçoit beaucoup de projets. Je ne les découvre pas au fur et à mesure, je les regarderai tous à la fin.
Qui décide de l'attribution ? Qui fait partie du jury ?
Alors le jury, en fait on a deux étapes. Il y a un comité de sélection, donc c'est des professionnels de l'art et le développement durable qui nomment 10 projets finalistes. Ce qu'on a décidé, on a choisi ces formules pour pouvoir accompagner ces 10 projets. Le but, c'est qu'il y a évidemment un lauréat, mais il y a aussi l'idée que ces 10 projets soient mis en lumière et qu'on puisse les accompagner plus durablement. Et ensuite, il y a un jury qui va choisir le lauréat parmi ses 10 finalistes. Et là, qui est composé de... Il y a Laurence Toubiana, il y a Bernard Bisten, Anne-Marie Charbonneau, qui est la présidente du Centre national des arts plastiques, puisqu'en fait, on est soutenu par le ministère de la Culture, le Centre national des arts plastiques, etc. Donc, on a vraiment des grands professionnels qui viennent... Jean-Pierre Sicard de la Caisse des dépôts et consignations, etc. Voilà. J'ai pas toute la liste, désolé, du jury en tête.
Vous disiez tout à l'heure que vous travaillez avec le ministère de l'écologie, c'est ça ? Mm-hmm. Vous avez le sentiment qu'il y a une prise de conscience des pouvoirs publics aussi, de l'importance de la culture et de l'art ? Et est-ce que vous êtes accompagné ? Est-ce que c'est plus avec le ministère de la Culture ou avec le ministère de l'écologie ?
Alors, il se trouve que nous, on a plus, c'est plus facile avec le ministère de l'écologie que le ministère de la Culture jusqu'à présent. Bien que le ministère de la Culture fasse un gros travail, et là notamment... On a justement, il y avait ces derniers mois une chargée de mission au sein du ministère de la Culture qui était chargée de faire un audit auprès de toutes les directions. J'ai le casque. Et donc d'étudier un petit peu, de faire remonter toutes les initiatives au sein du ministère de la Culture et de définir des points de stratégie. Donc, ça c'est tout terminé juste cette semaine. Et ils viennent de mettre en œuvre un plan d'action avec 50 projets. Donc, ils vont évidemment de tous les process, puisque le ministère de la Culture a, avant de réfléchir au message sociétal de l'art, doit gérer son parc d'institutions. Donc, ils ont des lieux, etc. Donc, il y a toute la question du bâtiment, de l'architecture, de la restauration, de l'amélioration sur les marchés publics, etc. Donc, c'est vrai qu'ils ont des gros chantiers qui sont d'abord axés sur les processus. Et sur l'impact, et par ailleurs aussi des programmes pour essayer effectivement de soutenir la création. Mais bon, c'est vrai que c'est un processus plus lent, et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choses identifiées pour que les artistes intéressés par ces sujets s'y adressent, quoi. En revanche, au ministère de l'écologie, là, nous, on travaille avec la direction de la biodiversité et le programme d'adaptation au changement climatique. Il y a vraiment une prise de conscience qu'il va falloir travailler sur la dimension culturelle, en fait, de l'écologie, donc via les artistes, via les secteurs culturels, mais aussi via les sciences politiques, via la recherche, etc. Donc, il y a vraiment, en tout cas, on a, nous, la chance d'être en contact avec des personnes qui ont vraiment conscience, ouais, de l'importance de cette approche.
Alors, on a beaucoup parlé de l'art jusqu'à présent. C'est vrai qu'il y a eu l'autre composante, c'est effectivement la culture, le divertissement, même peut-être. Est-ce que vous êtes en contact aussi avec des boîtes de production, je ne sais pas, pourquoi pas France Télévisions ou des grands médias comme ça qui cherchent aussi à diffuser ce message-là ?
Bah, écoutez, voilà, ça se fait petit à petit. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est moins le sujet. Parmi nos membres, comme je dis, Alice Audouin, qui, elle, en fait, travaille beaucoup plus sur les médias et donc qui a, en l'occurrence, déjà eu l'occasion, alors je ne parlerai pas à sa place, mais de faire du conseil ou de réfléchir à des programmes pour la télévision française, etc. Donc, c'est des choses qui avancent. Voilà. Mais nous, pour l'instant, c'est vrai que ça n'a pas été un axe sur lequel on a... Mais pour des questions aussi, voilà, quand on se spécialise sur des choses, par exemple, il y a une initiative qui est en train de se créer en ce moment en France aussi, sur la musique. Donc j'imagine qu'il y a des choses qui existent aussi dans la télé, dans la production, etc. Donc après, bon, bah, c'est comme si des initiatives qui font avec leurs petits moyens, on se concentre aussi sur ce qu'on sait le mieux faire.
Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place qui serait un projet symbolique qui vous ferait émerger peut-être sur la scène médiatique? Enfin, on pourrait parler de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place dans les années ou les mois qui viennent?
Bah, en fait, on réfléchit à deux gros projets, notamment au niveau européen. C'est une biennale sur l'art et l'agriculture et un projet de festival aussi en 2012. C'est un événement qui va de toute façon avoir lieu, mais on voit comment on pourrait essayer de l'amplifier, d'en faire un festival plus ambitieux avec Cap Farewell, en fait, qui est une initiative anglaise exceptionnelle. Qui est des expéditions en fait au Grand Nord qui emmènent des artistes et qui, suite à ça, produisent beaucoup d'œuvres, des expositions, etc., qui circulent un peu partout à travers le monde, qui sera présentée à Paris pour la première fois en 2012. Et on envisage d'essayer d'aller plus loin et de faire un festival plus ambitieux à ce moment-là.
Merci beaucoup. Merci, Laurane Germont, cofondatrice, je le rappelle, de la Coalition pour l'art et le développement durable. On appelle ça le COAL. Merci d'être venu sur ce plateau de Fréquence Terre. Merci à Mathieu Jubré, de Marcel Green qui animait ce débat.